Donc, je vous propose de commencer le débat. Je vais peut-être introduire la discussion par juste une question commune à Laurence et à Louis. Vous avez parlé tous les deux du courage. Louis, du rapport entre le courage et le hors-sexe. Laurence, du rapport entre la peur et le courage. Et surtout, enfin, ce sur quoi je voudrais que vous réagissiez, c'est, enfin, Laurence, tu parlais de que le véritable courage, c'est de rencontrer le S de Grand Tabaret. Et la conséquence pour les analysants et pour les analysants qui deviennent analystes. Et toi, tu as parlé aussi, Louis, des conséquences sur les compagnons qui traversent cette même aventure. Donc, voilà. Enfin, je vous propose de commencer à discuter à partir du courage.
Oui, non, je vais commencer par une question aussi à Laurence. Tu as cité Lacan citant Aristote. Donc Lacan en 58 disant, il cite Aristote pour dire l'amitié essence du lien conjugal. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les couples aujourd'hui? Il n'y a plus d'amitié ou Aristote s'est trompé?
Je sais pas. Je crois qu'il y a... Enfin, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce serait différent de l'époque?
Bon, c'est pas beaucoup plus.
Oui, mais je pense qu'il y a quelque chose que...
Ça se passe souvent.
Oui. Eh bien, c'est parce que sans doute...
Ça veut dire que c'est ça qui fonde le socle du couple.
Mais parce que je pense... Oui, mais je crois... Enfin, il m'a semblé, moi, en tout cas, en travaillant et en lisant tout ce que j'ai lu, qu'à un moment donné, effectivement, dans les couples qui tiennent, il y a quelque chose qui ressemble, sans doute, à de la filia, en tout cas, à de l'amour qui ne passe pas que par le sexe. Il y a sans doute une autre dimension. Alors, pardon ? Oui, c'est ça. C'est pas alors que les couples se séparent aujourd'hui plus facilement qu'en 58, peut-être, sans doute, les non, temps non, changent.
C'est
ou qu'à l'époque
d'Aristote. Hein.
Ou même qu'à l'époque d'Aristote. Bon, mais peu importe. Oui. Mais je crois qu'il y a une dimension supplémentaire quand les couples tiennent longtemps. En tout cas, c'est ce que moi je crois, qu'il y a quelque chose qui va au-delà. Voilà. Alors,
au-delà de quoi ?
Au-delà de qui est plus que le désir que la relation sexuelle. Enfin, je crois qu'il y a quelque chose, une dimension supplémentaire. Et que, alors effectivement, après, c'est au cas par cas, mais je, voilà. Alors, pour répondre à, puisque j'ai le micro en main. Alors, bon, je ne suis pas sûre que ma réponse soit satisfaisante, mais en tout cas, c'est ce que je crois. Par rapport au courage, oui, je crois que pour aller jusqu'à la fin de sa cure, un analysant a besoin de courage, qu'on rencontre quelque chose... Bon, pour l'instant, je parle de l'analysant, mais l'analyste, il est censé mener ses analysants jusque-là. Je crois qu'il faut du courage pour aller au-delà de l'analyse thérapeutique, pour être confronté à ce trou, à l'horreur à sa propre horreur de savoir. Oui, je pense qu'il faut une dimension de courage.
Tu veux dire un mot ? Oui, sur le courage. Oui, bien sûr. La question, il y a plusieurs questions avec le courage. Il y a la question du courage pour finir l'analyse.
La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui reste de ce courage après ? Parce que le courage, il peut y avoir un courage pour finir, et puis que ça se recouvre, que finalement, c'était juste un courage pour faire le saut.
On peut s'en faire une conduite après, c'est ça la suite.
Oui, mais on peut se faire des conduites pas courageuses. Et donc ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est pas sûr qu'il y ait un changement radical de l'expérience analytique sur le courage préalable du sujet. Il y a des hétérogénéités concernant le rapport au courage. Et donc, c'est pas sûr. Là, il y a une question de réel. C'est pas sûr que ça puisse être changé. Il peut y avoir ce que tu dis. Pour terminer, il faut du courage. Donc, il y a quelque chose qui change. Mais la dimension d'un réel de chacun par rapport au courage, c'est pas sûr que ça change. Je dis pas le contraire. Hein.
Oui. Mais j'ai fini mon intervention sur le qu'est-ce qui tient. Ça fait partie aussi, enfin, c'est pas ça que je pensais fondamentalement, mais ce que tu dis permet effectivement de rajouter cette dimension-là dans le qu'est-ce qui tient après une analyse terminée. Et comment ça tient ?
Patrick, voilà, prends le micro là, oui.
Et puis Carlos.
Il y a plusieurs points, enfin il y a deux points essentiels, celui de l'éthique de l'amour et celui qui concerne l'hystérique. Alors je vais poser, puisque tous les trois vous avez abordé cette question, sur la philia, donc ça s'adresse à vous trois. Moi, en lisant le texte, j'avais l'impression que avec la philia, il nous donnait une illustration de l'amour, en tout cas de l'éthique de l'amour, et à partir de ce qu'il dit précédemment dans la leçon sur ce qu'il appelle les spéculations antiques, et que du côté d'Aristote, Aristote amène l'amour à ce que, comme il dit, l'être arrive à confondre son bien, nous on dirait à confondre son objet avec l'être suprême. Et l'être suprême, ça peut se remplacer par S de grand tabaret, parce que juste avant, il dit que l'être suprême est situé du côté de la jouissance de l'autre. Donc c'est ce qu'il a dit juste en tête, sur la même page 78, hein, il dit le principe de plaisir ne se fonde que de la coalescence du petit a avec le S de grand tabaret. Donc je crois que c'est la spéculation antique. Enfin, c'est ce qui se passe, mais c'est la spéculation antique. Et lui, il renverse la chose en disant que ce qui fait l'amour, et en particulier dans la philia, l'éthique de l'amour qui est hors sexe, c'est pas spécialement pour la philia. L'éthique de l'amour est hors sexe. C'est pas le spécifique. La philia est l'illustration de ça. Enfin, c'est comme ça que j'ai entendu. Et que c'est le renversement qu'il opère, c'est-à-dire que chacun, enfin, dans ce qui fait la communauté de ces personnes liées par ce sentiment de philia, c'est pas parce qu'ils ont confondu, enfin, ils sont attirés par l'être suprême, c'est qu'ils ont, ils se sont reconnus entre eux comme étant avec cette capacité à supporter l'insupportable de ce rapport à l'être suprême. Il va dire la même chose en ce qui concerne l'amour entre deux êtres. Au niveau de l'inconscience, cette façon de capter chez l'autre, cette façon de supporter ou pas l'insupportable de l'existence. Donc voilà, je pense que c'est le côté, l'éthique de l'amour est hors sexe. Enfin, ça, c'est un peu l'idée que j'ai à lire le texte.
Attention. Ça. Oui, je veux dire un mot par rapport, peut-être vous aussi. Je ne sais pas pourquoi tu dis que l'être suprême, c'est Aizé Grand Tabaret. À quoi tu le déduis ?
Ah ben, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est dans la page précédente.
Comment il dit ?
Il le dit... Alors, si nous supportons maintenant des inscriptions de ce tableau, il se révèle assurément que c'est à la place opaque de la jouissance de l'eau, de cet autre en tant que pourrait l'être s'il existait la femme, qu'est situé cet être suprême, mythique manifestement chez Aristote.
Voilà. Oui. Et donc cet être suprême, la femme, on dit, non ?
Non, je parle...
Il ne dit pas « Eze Cantabare » là.
Ah ben, il le dit.
Où est-ce qu'il dit « Eze Cantabare » ?
Et pourtant, A a pu prêter à confusion avec S de grand tabaret, en dessous de quoi il s'inscrit au tableau, et cela par le biais de la fonction de l'eau.
Il a prêté à confusion.
Oui, c'est bien ça. Oui, il a prêté à confusion dans la spéculation antique.
Oui. Mais ce n'est pas que l'être suprême, c'est S de grand tabaret. En tout cas, moi, je ne le vois pas comme ça. Ben le grand autre.
C'est la connexion, qui fait avec Dieu et la femme.
Mais Dieu, est-ce que Dieu est à la place des S des grands tabarets ?
Oui. Oui.
Là.
Toujours. Depuis, on pourrait le dire depuis subversion du sujet. Parce que S de grand tabaret.
C'est ce qui vient compléter le S de grand tabaret.
Oui, à la place de S de grand tabaret.
Ah oui, d'accord. Là, on est d'accord.
Est à la place de S de grand tabaret.
Donc, à la place du signifiant qui manque. Oh, donc, c'est ce qui vient garantir. Donc,
et
là, on, c'est ça que tu dis.
Donc, on parle, en fait.
Non, mais il y a eu un malentendu sur le fait que tu disais l'être suprême. J'avais cru comprendre que l'être suprême est des grands tabarets. Donc, venir à la place du signifiant qui manque est des grands tabarets, oui. Ça, c'est la place de l'être suprême. Mais ce n'est pas la même chose que est des grands tabarets.
Oui, enfin, ce n'était pas là-dessus que portait l'essentiel de mon intervention. Hein, c'était sur l'éthique de l'amour qui est hors sexe et donc homosexuel.
Oui, je suis d'accord.
Homosexuel au sens qu'il n'a, ça n'a pas rapport avec l'autre.
Dans votre discussion là, je m'étais dit avant, il faut toujours préciser qu'est-ce qu'on met sous le terme d'autre. Parce que dans ce texte, justement, et dans Encore, quand Lacan dit l'autre, la plupart du temps, ça désigne l'autre sexe. De même, quand il dit le sexe, ça désigne le côté femme. Et donc, il faut toujours bien préciser, parce que tout le long, vous avez parlé un peu tous du rapport à l'autre, alors on ne savait plus de quel autre il s'agit. Enfin, ce n'est pas qu'on ne sait plus, mais on se demande. C'est juste une précision. Vous aviez une deuxième question, vous avez dit.
Ah oui, j'avais une deuxième remarque par rapport à...
On n'a pas fini de répondre.
Oui, alors je... Hein je...
Mais il
n'a
pas
fini. Laurent. Mais, non, ça va brouiller la discussion, je poserai après sur l'hystérie et justement de son rapport ou pas à la question de l'hystérie et de son rapport ou pas à S de grand tabaret, quand même, c'était la question.
C'est l'autre absolu.
Enfin bon.
Non, moi je voulais simplement, si tu parles de. Enfin, je suis d'accord sur l'éthique de l'amour hors sexe, mais la question de la filia, qui est une façon d'être ensemble par rapport à l'être suprême, mais ce qui revient dans justement cette éthique de l'amour hors sexe, et ça c'est quelque chose que je trouve assez compliqué, mais que Louis a pas mal développé, c'est la question de la mêmeté, c'est-à-dire que ce sont des hommes entre eux qui sont dans la même dans le même rapport à l'être suprême. Voilà l'histoire de la question hystérique, c'est elle se même et c'est donc cette question de la mêmeté qui est en jeu dans cet amour hors sexe, me semble. Mais je trouve assez compliqué la question de mais enfin toi tu en as un peu parlé. Oui, enfin c'est enfin,
alors il faut peut-être préciser de quelle mêmeté il s'agit.
Alors, c'est
parce que, est-ce que c'est la même thé imaginaire, c'est-à-dire le double, ou est-ce que c'est une même thé qui n'a rien à voir avec ça? Parce que si on ne précise pas, si on précise pas de quelle même thé il s'agit, on va vite du côté de l'identique. Je crois que ça n'a rien à voir.
Non, ça n'a rien à voir, mais c'est...
Au fond, quel est le message ou la description antique que l'on adresse aux jeunes gens, les jeunes homosexuels de la Grèce antique? Ils sont liés par des relations sexuelles, homosexuelles. Et le message du philosophe, c'est de leur dire, bon, vous vous aimez, mais il y a un autre amour, regardez du côté du nous, du logos, et vous allez vous élever vos âmes en direction de l'être suprême. Ce que Lacan traduit, parce que c'est lui qui le traduit comme ça, c'est pas Aristote qui le dit comme ça, ce que Lacan traduit en disant vous pourrez, votre bien pourrait s'approcher du bien de l'être suprême. Bon. Donc c'est un chemin d'ascension vers une valeur morale. Hein, donc c'est tout à fait justifié de parler de l'éthique. Et au fond, Lacan, lui, comme il dit, il renverse un petit peu le message. C'est fort ce terme de message, mais il ajoute en tout cas quelque chose. Il dit que ce qui les rapproche, ses amis, ce n'est pas la commune, la même thé dans la relation l'être suprême, c'est l'élément courage.
Oui.
Hein, c'est l'élément courage. Donc c'est effectivement une même thé qui n'est pas du tout imaginaire, en fait, qui est éthique déjà. Une sorte d'amour qui serait une perception de la position éthique de l'autre. Thème qu'on retrouve tout à la fin du même séminaire.
Oui, c'est ce que je dis, il y a un réel dans le choix d'amitié.
Je ne sais pas si on peut dire réel, là, le courage, c'est un trait clinique, c'est un trait éthique. Pour, si vous voulez l'appeler réel, pourquoi pas, mais je ne sais pas. Un affect du réel, oui, on pourrait dire comme ça. Un affect du réel, oui, qui indique un rapport à quelque chose de réel, oui.
Alors, bon, je ne saurais pas répondre à la question de l'hystérique et l'être suprême. Bon, je passe aux autres questions, peut-être on pourrait y revenir tout à l'heure. Il y a Carlos, Sol, hein, et Marjolette. Oui, Carlos. Attends, on t'a passé le micro.
Merci. Je voulais faire une petite remarque sur cette question de pourquoi aujourd'hui on se sépare plus qu'à cette époque-là. Du fait que je pense qu'à l'époque la question ne se posait même pas, parce qu'il n'y avait pas de séparation possible. Les femmes étaient des biens pour les citoyens, donc je crois que du coup on ne les comptabilisait pas. Et deuxièmement, je voulais poser une question à Laurence Mazapute, parce qu'elle a évoqué, concernant la paz, l'idée que, disons, la paz, en fait, on décompte en fait, d'un passage par la femme ou par le féminin. Et vous avez évoqué la question que dans notre école, les dernières AE ou les AE qui ont été nommées, c'était des femmes. Et donc, je voulais vous poser la question... Comment vous interprétez ça dans votre exposé? C'est-à-dire, est-ce que ça fait la démonstration de quelque chose, le fait que ça soit des femmes à l'état civil, ou qu'est-ce que c'est l'hypothèse que vous en faites? Voilà, merci.
Il n'y avait rien d'interprétatif, c'était juste un constat un peu humoristique, peut-être comme le titre était un peu provocateur. C'était simplement... Non, il n'y avait rien de... je n'interprète rien là. C'était juste le constat sous forme de trait d'humour presque.
Oui, ça, je pensais qu'il y avait une autre question, Carlos.
Il y a une autre question ?
Non, je pensais que Carlos allait dire autre chose.
Oui, moi je voulais vous remercier parce que vous m'avez fait apparaître quelque chose que je n'avais pas réalisé aussi clairement. C'est que c'est l'opposition entre cette éthique hors sexe, l'amitié, l'amour amical situé par Lacan du côté de l'éthique hors sexe. La distinction donc entre ça et l'éthique du discours analytique qui se fonde sur le non-rapport sexuel, sur l'affirmation du non-rapport sexuel. Et donc vous m'avez fait apparaître à quel point le fait d'affirmer le non-rapport sexuel, c'est tout autre chose que de se situer hors sexe et même à l'opposé. Et alors, j'aurais voulu mettre ça en lien avec les remarques de Laurence, dont je m'adresse en particulier à Laurence, mais aussi à vous, puisque tout le monde a parlé de ça un peu, où tu faisais des remarques sur l'amour plus digne. Je crois que tu reprenais ce que Lacan pointe, c'est qu'un amour plus digne qui renonce à son objet. Je n'ai plus la situation exacte, mais tu as fait référence à ça. Et alors, tu ajoutais deux traits pour faire l'amour plus digne que ce foisonnement de bavardage. Et donc, tu ajoutais deux traits à cet amour plus digne. D'une part, tu proposais de considérer que c'est un amour qui ne méconnaît pas sa dimension de haine. Je te suis, là. Et puis, tu disais aussi que c'est un amour qui ne demande rien en retour. Et alors, là, je n'en suis pas si sûre. Donc, je voulais te demander peut-être d'en dire un peu plus parce que ça n'a pas de soi pour moi.
Je crois que c'est une dimension importante, cet amour qui ne demande rien en retour et sans doute pas d'être aimé d'ailleurs. Qui ne demande pas obligatoirement la réciprocité, même si c'est mieux quand c'est réciproque. Enfin, quelque chose, un amour qui ne demande pas de complémentation. Enfin, il y a comme ça des petits points qui me semblent importants et qui sont de cet ordre-là, qui ne sont pas dans une demande inconditionnelle non plus. Enfin, voilà. Oui, ça mériterait. Non, mais oui, c'est peut-être. Alors, pour le coup, c'est peut-être ma formule à moi qui est un petit peu excessive. Voilà. Peut-être tu mets tu mets l'accent sur le ne rien demander. Au fond, d'abord, est-ce que c'est possible, hein? Voilà. Non, sans doute le rien est de trop, en tout cas. Il aurait fallu... on débat ici, on en discute. Voilà, c'est vrai que quand on écrit un texte, on est dedans. Je trouve ta remarque très, très juste. Sans doute, ça ne demande pas rien, mais ça demande le moins possible, en tout cas. Je crois, moi. Et peut-être, en tout cas, pas de complémentarité ou pas d'exigence ou pas de... Bon, enfin, voilà, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut entendre dans les plaintes qu'on entend au jour le jour entre les couples. Enfin, dans les couples, en tout cas.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que c'est un amour qui n'attend pas que de boucher le trou par la main ?
Oui, aussi. Oui, 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 oui. Voilà, oui. Bien sûr, oui, oui. Mais vous avez raison, enfin, le rien là était de trop, c'est le cas de le dire.
On n'est pas dans l'attente de l'amour en général, qui qu'il est un complémentaire.
Mmh. Oui.
C'est vraiment plus limite.
Oh, alors là,
je vais.
Poser une question d'ignorance, c'est-à-dire, je vois pas bien comment on peut comprendre ce renversement qui propose l'être suprême, c'est-à-dire en quoi la relation à l'être suprême qui est définie comme bien chez Aristote se renverse en relation intolérable.
C'est Lacan qui le dit.
Oui, bien sûr, c'est Lacan qui dit. Mais je comprends ce qu'il dit en
disant ça. Il dit l'inverse de ce que dit Aristote.
Oui, justement, je comprends comment c'est possible. C'est-à-dire qu'on essaie de prendre, de renverser cette affaire-là. Parce que les philologues en question, ils se reconnaissent justement dans une sorte de.
La phrase.
On est prévu à monter vers le bien. Alors comment est-ce que Lacan renverse cette affaire?
Sur ce point, je ne sais pas. Est-ce que la relation à l'être suprême, d'abord l'être suprême de l'Antiquité, c'est. On n'a presque plus moyen d'avoir une intuition de ce que. Une intuition existentielle de ce qu'était l'être suprême dans l'Antiquité. Hein, donc c'est très difficile parce qu'on est maintenant, on ne peut pas se laver le cerveau de l'être suprême qui est le dieu monothéiste et en plus un dieu de parole. Alors vous vous rendez compte ? L'être suprême de l'Antiquité, il ne parlait pas. Hein. C'était pas un dieu de parole. C'est devenu pour nous très difficile d'avoir une intuition de ça. En tout cas, est-ce que la relation à l'être suprême, même dans notre orbe de civilisation, est-ce qu'elle n'est pas intolérable ? Moi, je trouve ça très évident. Même au niveau intuitif. Alors après, Lacan, il a une construction pour rendre raison de ça, mais bien sûr que c'est intolérable. D'abord, on ne sait pas s'il est là, il ne répond pas, on l'invoque, il envoie des malheurs, etc. Non, c'est...
Ça n'a rien à voir.
Oui. Alors, dans l'Antiquité, l'être suprême, pourquoi on dirait la relation intolérable à l'être suprême ? Peut-être ce qu'a évoqué Louis, qui a évoqué quelque chose là-dessus, oui.
Oui, c'est complexe, parce que si on considère l'être suprême juste comme le bien dans la cité, on n'aurait pas besoin de parler d'amitié. Puisqu'il y aurait l'être suprême et puis tout le monde à égalité, tout le reste des gens à égalité par rapport à l'être suprême. Or, ce qui est indiqué par Aristote, c'est qu'il y a un choix. Et il y a un choix qui porte sur des raisons précises. Donc, il y a une idée forte de l'amitié. Donc, il y a l'idée d'une sélection. Donc, il y a en même temps que l'être suprême qui règle tout, en même temps la nécessité que chacun fasse son choix. Dans le rapport d'amitié avec l'autre. Donc ça veut dire que l'être suprême ne règle pas tout, même dans l'Antiquité. C'est l'idée que je me fais.
Oui, mais ça ne fait pas de l'intolérable, ça, qu'il ne règle pas tout.
L'idée oui. Qu'il y ait de l'intolérable, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne règle pas tout. Donc on se confronte à un intolérable. S'il y a l'être suprême qui règle tout, on n'est pas dans l'intolérable.
J'avais une autre idée de l'intolérable.
En tout cas, c'est une condition, je trouve. Oui. C'est confronté à quelque chose qui n'existe pas.
Oui.
Sinon, on dirait que c'est l'être suprême qui le veut et on tolère. Non ? Donc, il y a un point où l'être suprême manque.
L'aspiration vers le bien suprême, si je peux lui donner un sens d'intolérable, c'est parce que ça exige quand même des sacrifices. Sartre, par exemple, qu'ils cessent de s'occuper uniquement de leur queue, et qui, pour le dire crûment, puisque c'est de ça que ça part, et qui commence à penser au bien, grand B, majuscule. Et donc, ça implique des sacrifices, ça implique... C'est pas l'exigence de l'autre, parce que l'exigence de l'autre n'existe pas dans ce truc-là. C'est pour ça que je disais, c'est très difficile pour nous. Et vous voyez, même en parlant, on est obligé, on dit exigence de l'autre. Ben non, il n'y avait pas d'exigence de l'autre. C'est le philosophe parlant qui fabrique de l'exigence, mais c'était pas le...
un choix de vertu.
Oui, bon. Ben. Moi, j'ai un autre point. Je voudrais dire quelque chose sur la façon dont j'ai compris, en tout cas, les dernières lignes du paragraphe. Bon, l'hystérie fait l'homme homosexuel. Et quelle est la passe ? Leur étant dès lors difficile de ne pas sentir l'impasse qui consiste à ce qu'elle se mème dans l'autre. Se mème dans l'autre, ça veut dire pour moi qu'elles sont les mêmes que les femmes. C'est l'autre comme femme ici. Elles sont quand même femmes. Hein, on les dit femmes. D'ailleurs, l'enchaînement du paragraphe, c'est, il passe à on les dit femmes. On la dit femme. Et donc... effectivement, elles font l'homme, mais elles sont quand même que les femmes. Au niveau du langage, on les dit femmes, au niveau du langage. Donc elles se mêment dans l'autre, non pas au niveau forcément, si au niveau déjà de l'image, et l'image, l'anatomie gouverne le nom de femme qu'on leur donne, on les nomme femmes, les autres on les nomme hommes. Et donc, c'est une impasse, évidemment. Et quand Lacan dit qu'il n'y a pas besoin de se savoir autre pour en être, donc c'est bien ça que ça veut dire. Elles sont des femmes. Elles en sont, mais elles ne le savent pas. Elles ne le savent pas, puisqu'elles s'identifient du côté homme. Moi, c'est comme ça que je lis ça. Et donc, c'est une impasse, parce qu'elles s'identifient du côté homme, alors que malgré tout, elles sont des femmes au niveau et de l'imaginaire et de la nomination qui fait les choses. Et je comprends aussi pourquoi Lacan, juste après, passe à « on l'a dit femme ». Il avait bien ça en tête.
C'est vrai, c'est vrai que c'est tout à fait logique. Moi, je me suis justement pas attaquée à cette question de ce même parce que ça me paraissait difficile à saisir. Mais alors, l'idée que j'en avais, c'était plus le fait que comme elle s'identifie à l'homme pour s'interroger sur la sexualité féminine, c'était dans cette identification que j'avais, et d'une façon générale, la façon dont l'hystérique s'identifie au désir de l'autre pour exprimer un désir. Elle a toujours le désir, c'est le désir de l'autre qui l'a fait désirer, on va dire. Et c'était un peu dans ce sens que je l'imaginais, mais justement, ça me paraissait très compliqué. Donc là, effectivement, si on l'a dit femme...
Ça marque la flèche.
Oui. Oui, Marc a demandé la parole.
À propos de... C'était pas ma question, mais ce que vous disiez, effectivement, la mêmer dans l'autre, on a le cas de se mêmer dans l'autre. Pour les femmes, on a le cas princeps de Dora, qui nous montre bien comment, effectivement, elle se même dans Madame K, mais en se voyant, du coup, avec les yeux de l'homme qui est supposé aimer Madame K. Pareil pour la belle Bouchère, c'est quand même à travers les yeux de l'homme qu'elle se voit. Alors je voulais vous poser une question sur cette filia, cet amour dont parle Lacan dans ce passage. Est-ce que c'est ou est-ce que ça n'est pas l'amour du père dont on parle classiquement dans la psychanalyse? L'amour du père en tant qu'il est porteur et garant de la signification phallique,
l'âme, le phallus, tous les signifiants que vous avez utilisés rapportent à ça, les idéaux, ce qui les fait tenir. Et on a, à la pointe peut-être de cette thèse, il me semble qu'on a le même renversement sur ce qui justifie le respect, sinon l'amour pour le père, dans le séminaire RSI. C'est-à-dire, Olvieu, effectivement, de considérer que la filia, c'est la communauté de ceux qui partagent cette aspiration à l'idéal du bien, ceux qui communient ensemble dans cette volonté de tendre vers les idéaux, et bien Lacan inverse les choses, tout comme il les inverse pour le père. Le père, ce n'est pas celui qui incarne les idéaux, mais en fait la filia, c'est donc pardon, la filia, ça n'est donc pas la communauté des idéaux, mais au contraire, je ne sais pas quel est le mot juste, une complicité, une reconnaissance, dira Lacan à la fin du séminaire 11, une reconnaissance du fait qu'il n'y a pas justement de communion avec l'être suprême, que la communion est impossible avec l'être suprême. La communion, c'est évidemment un terme, c'est exprès que j'emploie ce terme avec ses connotations religieuses. Et donc, je vous repose ma question, filia et amour du Père.
Dans ce cas, tu mettrais le Père à la place de l'être suprême ?
Bien sûr, c'est cette face de Dieu dont parle Lacan ailleurs, côté paternel, bien sûr.
C'est ce que je disais, c'est la lecture anachronique.
Anachronique.
Anachronique. Ah, oui. On projette ce qui vient de notre discours à nous.
Je disais tout à l'heure, on ne peut plus se représenter ce que c'était l'être suprême. Et c'était pour dire justement qu'il ne faut pas dire ça. Ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que la filia, au fond, ce serait ce qu'on connaît bien comme l'amour du père. Je dis, c'est une lecture anachronique. Anachronique, c'est-à-dire, alors, si on veut arriver à vraiment avoir une idée de ce qu'était la filia pour Aristote, et déjà, il faut le lire, et il faut le lire tous les entours. C'est un gros travail, je ne sais pas si on va s'y mettre maintenant. Et non seulement il faut le lire, mais même quand on le lit, et Lacan le dit, on ne peut plus se représenter en quoi leurs universaux, en quoi leur être suprême, ça les faisait jouir. En quoi ça les satisfaisait, plutôt, il dit. Et donc, Lacan n'aurait pas évoqué la filia si c'était simplement pour parler une fois de plus du papa. Ça me paraît certain, tu vois. Non. Eh ben, je te le dis quand même.
Oui. Hein?
Il l'évoque pour montrer que le fait que l'amour est hors sexe, là-dessus, Barillot a complètement raison. C'est pas seulement la filia qui est hors sexe, c'est l'amour. Parce que l'amour, c'est un phénomène du sujet. Hein? Et le sexe et la jouissance, c'est un phénomène qui suppose le corps. Bon. Et quand Lacan dit un sujet n'a rien à voir avec la jouissance, mais il a à voir avec l'amour et le désir. Hein? C'est dit dans d'autres passages de encore, ça va tout à fait dans ce sens. Donc, s'il y a une éthique de l'amour, ce qui n'est pas le cas de la psychanalyse, Aristote, c'est une éthique de l'amour, c'est-à-dire qu'on en fait un idéal, une chose à poursuivre, qui sert à orienter sa propre existence. Hein? Bon, donc, c'est pas du tout. Nous, on n'a pas une éthique de l'amour. Mais l'idée que l'amour en tant que tel, il est hors sexe, c'est la thèse générale de Lacan, et très, très assurée dans ce séminaire. Alors pourquoi je disais ça ? C'était pour. Ah oui.
Parce que l'amour du père, du sous-temps-là, est hors sexe aussi.
Tout amour en tant qu'amour est hors sexe. Bon, alors, c'est un trait commun. Tu disais pourquoi il évoque la filia. Il évoque la filia, non pas pour parler du père, il évoque la filia pour nous dire que l'amour est hors sexe. Bon, et il l'a dit avant, il va le dire après. L'amour en tant que tel est hors sexe. Mais qu'il y a eu dans l'histoire une époque où on a essayé de construire une éthique de l'amour. De l'amour avant le christianisme, parce que c'est pas fini avec Aristote. Avant le christianisme, il y avait déjà une éthique de l'amour.
Bon. Le christianisme a repris les idées.
Non. Saint Thomas, le monothéisme chrétien, on ne peut pas dire que c'est vraiment en continuité avec l'être suprême antique. C'est une rupture historique. C'est d'ailleurs pour ça que Lacan ne parle pas de Dieu. À aucun moment il ne parle de Dieu à propos d'Aristote. Il parle de l'être suprême. On pourrait dire l'être suprême. On pourrait le dire de temps en temps.
Oui. Le Dieu qui n'a pas encore fait son exit en parlant de la gloire. Il y a les deux faces de Dieu.
Oui, il y a deux faces de Dieu, mais celle d'Aristote, c'était aucune des deux. Quand il dit les deux faces de Dieu, d'ailleurs, il dit il y a une face qui est le monde du Père, il y a une face Père et une face la femme. Hein? Et donc, Père, c'est pas l'être suprême antique. C'est là-dessus que. Bon, c'est un point d'histoire, disons ça.
Agnès, on peut passer le micro à Agnès. Je ne sais pas, tu veux rebondir sur...
C'est-à-dire, il me semble qu'il y a, après je le dis, donc je répète, qu'on ne met pas suffisamment en valeur, et Lacan d'ailleurs, il n'insiste pas beaucoup, on peut le capter avec la question du courage, qui est la question d'un lien entre les êtres fondé sur le choix. Il y a un choix. Donc, au-delà de la question, il me semble que la question essentielle, ce n'est pas le père ou pas le père, c'est la question d'un choix, le choix de l'amitié. Le choix de chacun. L'amitié, ça implique le choix de chacun. Je crois que c'est ça le point qui intéresse Lacan. Maintenant, la question de la séquence, je suis d'accord avec la question de l'amour hors sexe, quand même, ça pose la question. Si on suit la séquence, c'est Lacan parle de la filia. Puis il parle de l'homme et puis de l'hystérie. Là, il ne parle pas de la jouissance féminine, il ne parle pas des femmes. Donc, ça pose la question, c'est si la connexion, ce n'est pas juste pour montrer une modalité de jouissance. Si l'idée, la séquence, la logique de pourquoi il met l'un après l'autre, ça ne serait pas juste pour montrer une modalité de jouissance, la jouissance côté homme. Quelle femme il parle? Il parle de l'hystérie.
Mais non, il commence à parler des femmes.
Amoureuses.
Il se trouve que les femmes sont aussi amoureuses.
Mais le point, c'est qu'elle est amoureuse avec le chapeau.
Oui,
c'est pas, c'est pas une femme amoureuse avec un chapeau, c'est pas une femme amoureuse sans chapeau. Je crois que la question de la femme, justement, c'est ça l'impasse. Je comprends ce que vous dites, je suis d'accord. Mais l'impasse à la jouissance féminine.
Non,
mais
il
n'en
parle pas là.
Non,
il parle à propos de l'hystérie. La question de l'impasse, c'est juste.
Les femmes amoureuses, elles sont amoureuses en tant que sujet, elles ne sont pas amoureuses en tant qu'être de jouissance.
Non, mais... Et pourquoi ?
En tant que sujet.
Louis, quand.
Là, dans le cas des femmes amoureuses, elles aiment l'âme.
Ben oui, mais justement, il dit aussi qu'est-ce que ça peut bien être que cette âme qu'elles aiment dans leur partenaire. C'est-à-dire qu'il y a une différence. Enfin, il pose la question en regard de ce qu'il vient de développer à propos de l'homme. Enfin, c'est comme ça que j'ai entendu.
Il vient de dire que si l'âme existait, Si l'âme, il a dit, hein, si l'âme existait, il n'y aurait pas de scandale à l'admettre. Mais si elle existait, si c'était vrai, l'âme ne pourrait se dire que de ce qui permet à un être de supporter l'intolérable de son monde.
C'est une définition.
Donc c'est une façon de dire, comme il l'a dit pour les amis, juste avant, c'est que les femmes aussi sont amoureuses, c'est-à-dire qu'elles répondent, leur sentiment d'amour répond au fait qu'elles perçoivent chez le partenaire son courage, ce qui permet de supporter l'intolérable de son monde. Hein, c'est la même idée de la dimension de perception éthique qu'il y a dans l'amour.
Oui, je crois qu'on va pas réciter ça. Mais quand il dit, il se trouve que les femmes sont aussi amoureuses. Tout de suite après, il dit, ça ne peut en effet les conduire qu'à cette arme ultime. Et là, il évoque l'hystérie. Donc, c'est pas possible que toutes les femmes, le terme ultime des femmes soit l'hystérie.
Ah ben, bien sûr.
C'est le terme. Non, il dit les femmes. Il dit les femmes amoureuses. Donc les femmes amoureuses, ça conduit à l'hystérie.
Oui, oui. Les femmes amoureuses, ça conduit à l'hystérie. Et ça ne veut pas dire qu'elles y sont toutes conduites.
Pose du
hors-sel. Il y a que des femmes hystériques.
Amoureuses.
Non, il faut. Il faudrait plutôt dire que les amoureuses sont hystériques. Les amoureuses sont hystériques. Hein? Mais
oui, oui.
Toutes les femmes ne sont pas des amoureuses.
Mais est-ce que quand il parle du hors-sexe, ça reste quand même toujours du côté masculin? Enfin, moi, c'est ce qui m'a semblé.
Non, il y a plusieurs hors-sexe. Parce qu'au fond...
Parce que même dans cette transition avec la femme, il revient sur l'homme. Enfin, c'est pas.
Cette question, moi, me ramènerait bien aux considérations que vous avez faites sur l'analyse. Parce que, au fond, on va le dire comme ça, toute la jouissance dont on parle dans l'analyse, elle est hors sexe, au sens où on n'y parle que de la jouissance centrée par l'objet A et centrée par le phallus. Et ça, c'est la découverte, ce que les hystériques ont appris à Freud. Elles lui ont appris l'amour du père, mais elles lui ont appris aussi qu'au niveau sexuel, il a découvert les pulsions partielles, d'où sort après l'objet A. Elle leur a appris la prévalence phallique. Bon, toute cette jouissance-là, c'est justement celle qui ne fait pas rapport avec le sexe. Et dans la psychanalyse, vu que la psychanalyse opère par la parole et le langage, c'est la seule qui est mobilisée. Alors, quand on parle effectivement, et c'était fondé de penser à poser la question ce qu'il en est dans l'analyse, c'est qu'en effet, on pourrait dire que dans... On pourrait se poser comme ça, je ne sais pas si la formule serait valable, hein, mais que dans la psychanalyse, est-ce qu'il n'y a pas un passage d'une logique qui obéit à la logique du tout à une logique qui obéit à la logique pas toute, hein? Seulement, c'est la logique, ça. Le pas tout, quand Lacan dit l'analyste relève du pas tout, c'est une formule de logique. Ça ne dit pas ce qui habite la logique. La logique, elle est vide, purement formelle. Et donc, quand on parle des femmes, comme il dit, le patou, quand il s'agit d'une femme, s'habite. Elle est habitée par la jouissance autre. Quand on parle de l'analyste qui relève du patou, on ne pense pas qu'il est habité par la jouissance autre. Hein? Ou alors, je ne sais pas comment il pourrait travailler, je dois dire. Et donc, sur ce point, c'est vrai que ce que produit le procès analytique de manière générale, on est obligé de le distinguer bien du cas par cas, hein, du cas par cas et de ce qu'il en est pour chacun à la fin d'une analyse et de son courage. Il n'y a pas de transformation automatique du courage, mais ça peut. Ce qu'il en est de son désir, ce qu'il en est de ses modes de jouissance, et du savoir si ça se soutient après ou si c'est une bulle juste à la fin du procès.
Hein. Agnès, encore une question, voilà.
Je ne sais pas si c'est une question. Donc, considérant d'une part l'éthique de l'amour, que l'éthique de l'amour est hors sexe, et d'autre part qu'il n'y a pas de rapport sexuel, je me suis dit, quelle est la place du désir sexuel ? La question de Sol m'a fait penser que, au fond, dire il n'y a pas de rapport sexuel, ça ne veut pas dire il n'y a pas de sexe. Au contraire, c'est le contraire. C'est affirmer la différence sexuelle. Et donc reconnaître peut-être l'altérité. C'est là où j'en suis. C'est extrêmement simple, parce que c'est juste.
Même s'il n'y a pas de rapport sexuel, il y a du désir sexuel. Ça n'exclut pas. Ça n'exclut pas.
Et, surtout dire il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire, c'est dire il y a une différence des sexes. Oui. C'est ça qui s'oppose à l'éthique de l'amour est hors sexe.
Il y a deux côtés. C'est ça. Il y a deux modes de jouissance
voilà. Qui sont. Oui. Voilà ce que j'ai compris ce soir.
Oui. D'accord. Eh bien, merci. Alors attendez, avant de partir.